Association, économie, culture, actualité, emploi, sport, loisirs, social, santé. Radio Bulle vous donne la parole dans la quotidienne avec Ophélie. Tous les jours, du lundi au vendredi, à midi, sur le 93.6. Radio Bulle, c'est votre radio de la Genève.
93.6, Radio Bulle, c'est votre radio de proximité. Radio Bulle organise vos vacances et aujourd'hui, dans la quotidienne, on va justement vous parler d'un événement à ne pas louper dans notre département et qui va débuter d'ici quelques jours. C'est les soirées baroques de Montflanquin et on en parle avec Bernard Janssens. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Vous êtes directeur artistique du festival.
Oui, c'est bien ça.
Mais les auditeurs de Radio Bulle vous connaissent bien puisque vous animez aussi l'émission La Voix des Livres sur Radio Bulle avec l'association des donneurs de voix, la Bibliothèque Sonore d'Agen. Vous êtes d'ailleurs président de cette association.
Ouais.
Et cette émission reviendra en septembre, je le précise pour nos auditeurs, sous une forme différente. Vous serez chroniqueur dans l'émission La Parenthèse. Pareil, vous allez voir, on va vous en parler très bientôt. Ce sera entre 16h et 19h et cette nouvelle émission qui sera plutôt sous forme de chronique s'appellera Bulle de littérature.
Absolument.
Mais ce n'est pas le sujet de notre émission aujourd'hui. Vous êtes donc avec nous pour nous parler des soirées baroques de Montflanquin, un événement qui aura lieu du 16 au 29 juillet à Montflanquin, mais pas que. Avant de parler du programme du festival de cette 21e édition, est-ce qu'on peut raconter peut-être un petit peu l'histoire des soirées baroques de Montflanquin, parce que je crois que vous étiez là à l'origine quand l'événement a été créé.
Oui, alors à l'époque, je faisais équipe avec Jean-Marc Andrieux, qui était directeur musical de l'orchestre Les Passions, orchestre baroque de Montauban, qui est un orchestre quand même qui est bien connu maintenant au plan national en tout cas, et puis même en partie au plan international. Et donc on avait commencé ce stage en 2002, le stage qui était accompagné donc de différents concerts qui étaient donnés principalement par l'orchestre Les Passions. Et voilà, on a continué pendant 10 ans cette aventure. Et Jean-Marc Andrieux s'est dirigé vers d'autres horizons, disons. Mais nous sommes toujours en relation avec l'orchestre Les Passions, puisque c'est toujours le même orchestre qui vient depuis le début, qui vient nous accompagner pour certains concerts.
Donc les soirées baroques, c'est des stages, mais pas que, en fin de compte. Ça a évolué au fil des années ?
Non, c'est un festival.
Oui.
C'est vraiment un festival dans lequel, effectivement, il y a un stage pour une soixantaine de choristes amateurs qui préparent les deux derniers concerts du festival pendant une quinzaine de jours, donc qui préparent les chœurs. Qui accompagneront le cette année, c'est le concert qui s'appelle De Naples à Venise. On en parlera tout à l'heure si vous voulez.
Oui. Donc il s'agit d'un festival de proximité, un festival à la campagne, ni élitiste, ni complaisant. Ça, c'est ce que vous précisez sur votre site internet et j'ai trouvé ça intéressant.
Oui, c'est-à-dire que la musique baroque et la musique en particulier est souvent... quand je parle de musique, je veux dire la musique classique, est souvent cantonnée dans les grandes villes ou dans des milieux un petit peu élitistes. Et nous, justement, nous avons l'objectif de décloisonner un petit peu tout ça et de rendre accessible cette musique à n'importe qui. Et je vous assure que dans nos campagnes, comme on dit, eh bien, il y a des gens qui s'émerveillent devant cette musique et qui tout d'un coup découvrent quelque chose dans un lieu qui n'est pas nécessairement dédié à cette musique, d'ailleurs.
Oui. Et c'est un festival de qualité, on peut le dire.
C'est un festival de qualité parce que, il rassemble des professionnels.
Mm-hmm.
Il rassemble des professionnels. Il n'y a que le chœur qui est amateur.
Mm-hmm. Et il y a la volonté de créer du lien dans un milieu rural.
Oui, alors en particulier à Montflanquin, puisque le festival est basé à Montflanquin,
oui.
même si on intervient dans d'autres villes alentours. Mais c'est un festival vraiment qui dynamise la ville. Et les commerçants, la mairie, par exemple, sont très contents de nous avoir tous les ans parce que ça donne ça donne de la vie au village, évidemment.
On sort de chez nous, on se retrouve, on se rencontre, on rencontre notre voisin.
Voilà.
Qu'on ne connaît pas forcément.
Exactement, c'est exactement ça. Alors, bien sûr, il y a une population de touristes aussi qui est là, c'est l'époque, bien entendu. Mais ça se mélange bien, tout ça. Enfin, ce sont des concerts qui, en général, sont quand même très, très appréciés.
Mmh. Avant de parler du programme de cette 21e édition des soirées baroques, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ce que c'est que la musique baroque, pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui ont oublié?
Oui, alors le terme de baroque est arrivé beaucoup plus tard que l'époque dont on parle. Puisque l'époque dont on parle, on considère en général que la musique baroque commence en 1600 et finit en 1750. Bon, c'est un peu traditionnel ce que je dis là. Bon, bien sûr, on peut en parler un petit peu avant 1600, un petit peu après 1750, mais en gros, c'est exactement ça. 1600, c'est l'arrivée de l'opéra en Italie, avec un opéra qui s'appelait Orfeo, d'un certain Peri, et puis dont le thème a été repris par Monteverdi, Claudio Monteverdi, qui a vraiment fait une révolution, si vous voulez, dans l'opéra, en 1607, avec le même Orfeo. Et puis on considère que la période se termine avec la mort de Jean-Sébastien Bach,
d'accord,
donc en 1750. Voilà. Bon, c'est un petit peu arbitraire tout ça, bien entendu, mais ça donne une idée quand même, ça donne une bonne idée. Alors le terme baroque, évidemment, recouvre différentes choses. Dans l'opéra, par exemple, qu'est-ce qui a pu faire naître l'opéra? C'est l'accompagnement. En fait, on a inventé un système qui permettait à tous les instruments à clavier ou à cordes d'improviser sur une ligne de basse qui était en code chiffré. Voilà. Et donc qui permettait d'improviser sur une ligne de basse et qui permettait en même temps d'accompagner des solistes qui étaient en train de faire avancer un certain discours. Donc ici, dans ce cas-ci, opératique, bien sûr. Voilà, et à côté de ça, bien sûr, il y a plein d'autres choses. Hein. C'est le début du concerto, par exemple. Le baroque, c'est ça, hein. C'est le début du concerto. C'est une mise en valeur de l'individu.
D'accord.
Par rapport à la musique de la Renaissance, où c'était plutôt la mise en valeur d'un groupe. Hein. Par exemple, la musique de la Renaissance, c'était une musique très, très entremêlée, qu'on appelait d'ailleurs musique savante. Parce qu'elle était devenue tellement savante que elle était devenue, elle n'était plus compréhensible, si vous voulez, par l'auditeur, par un auditeur lambda. Donc c'était devenu une musique très, très, très élitiste.
Donc là, avec la musique baroque, on peut reconnaître chaque instrument, on peut se concentrer sur une voix, sur...
Voilà, exactement.
Okay.
C'est ce qui a donné le chant libre à la voix soliste, par exemple. Ou au soliste instrumental dans le concerto.
D'accord. Bon, vous m'avez dit tout à l'heure qu'on pouvait faire, on pouvait parler 4 heures de la musique baroque. En fait, on pourrait faire 4 émissions là-dessus.
Oui, oui.
On le fera peut-être un jour.
Oui, oui. Alors, bon, il y a quand même quelques compositeurs que tout le monde connaît.
Oui,
bon,
bien
voilà.
Hein,
je parlais de Jean-Sébastien Bach, évidemment. Mm-hmm. C'est un des plus grands. Mais pour rester dans notre domaine, qui est la musique italienne des deux derniers concerts, là, c'est Vivaldi, par exemple. Mm-hmm. Vivaldi, les 4 saisons, tout le monde connaît ça.
Oui.
C'est passé dans des milliers de pubs sur toutes les radios. Donc voilà, tout le monde connaît ça. Enfin, c'est sans doute un des compositeurs les plus populaires, qui est plus populaire que Bach d'ailleurs.
Oui.
Voilà.
Donc les soirées baroques de Montflanquin, ça commence ce samedi avec un stage. Les concerts commencent le mercredi 20 juillet, mais d'abord c'est le stage qui est complet malheureusement pour les auditeurs, ce sera pour l'année prochaine. On peut réexpliquer un petit peu de quoi il s'agit, ce stage.
Donc le stage réunit des amateurs, des choristes amateurs. On demande quand même une certaine habitude de chanter, bien sûr. Hein. On demande un petit dossier, mais enfin, on n'est pas très, très regardant quand même. C'est pas pour des choristes très, très aguerris, nécessairement. Enfin, un petit peu aguerris quand même. Et donc, on leur fait... Il y a une séquence de 15 jours d'apprentissage des morceaux, donc qu'ils ont déjà vu un petit peu chez eux, et qui permettent de s'intégrer, si vous voulez, dans une équipe qui, elle, est professionnelle. Donc les solistes sont professionnels, l'orchestre est professionnel, le chef d'orchestre est professionnel, etc. Donc c'est un croisement, si vous voulez, de pro et d'amateur.
C'est une belle opportunité.
Oui, mais je pense que... Enfin, en plus, si vous voulez, c'est plus qu'une opportunité parce qu'il y a une ambiance aussi qui se crée, qui est plutôt... qui est à la fois une ambiance d'exigence et en même temps une ambiance quand même très, très conviviale, quoi, on peut le dire.
J'imagine que d'une année à l'autre, y a des gens qui reviennent.
Oui, y a même beaucoup de gens qui reviennent, heureusement d'ailleurs, parce que ça permet d'avoir une espèce de fil conducteur d'une année sur l'autre, et ça c'est plutôt intéressant. Et puis il y a toujours des nouveaux. Cette année, il y a pas mal de nouveaux. Il y a, je pense, 20-25% de nouveaux.
Ah, c'est pas mal.
Oui, c'est pas mal, oui.
Et du coup, il y a combien de personnes qui peuvent participer à ce stage pour cette
Alors, on considère que le point d'équilibre, parce qu'il y a un côté financier, évidemment, qui intervient aussi, le point d'équilibre est à 60.
Ah oui.
Donc, quelquefois, on est un petit peu en dessous. Cette année, je crois qu'on est 57. Enfin bon, quelquefois à 65. Il y a une année où on a été beaucoup plus nombreux. On était, je crois, 78. Et on sentait vraiment que c'était trop, quoi. Enfin, du coup, l'ambiance en a pâti un petit peu. Enfin, donc on préfère tourner plutôt de 60-65 maximum, quoi. Voilà.
Okay. Bon, Bernard, vous restez avec nous. On va continuer de parler des 21e soirées baroques de Montflanquin. Je le rappelle, ce sera du 20 au 29 juillet à Montflanquin, mais pas que, dans les villages alentours également. On va parler de la belle programmation qui se prépare pour donc, les semaines à venir, mais tout de suite, on fait une petite pause musicale.
Six. c'est la quotidienne sur Radio Bulle, votre radio de la Genève avec Ophélie.
93.6, ici c'est Radio Bulle, votre radio de proximité. Radio Bulle organise vos vacances, vous le savez, et aujourd'hui dans la quotidienne, on vous parle d'un événement à ne pas louper dans notre département. C'est les soirées baroques de Montflanquin, ça débutera le 20 juillet jusqu'au 29. Et on vient juste d'écouter une musique Dixit Dominus. Et là, Bernard Janssens, mon invité, qui est directeur artistique du festival Les Soirées Baroques de Montflanquin, va pouvoir nous expliquer un petit peu pourquoi ce titre.
Eh bien, parce que c'est un des titres que nous interpréterons lors des deux derniers concerts du festival à Villeréal et à Montflanquin. C'est donc le Dixit Dominus de Baldassare Galuppi.
Mmh. Oui, et donc je précise, vous dites « nous ». Puisque il y a un stage de 15 jours avant cette soirée avec des chanteurs amateurs.
Ouais, ces chanteurs interviendront donc dans ces deux concerts.
Voilà. Et malheureusement, le stage est complet, donc les amis, ce sera pour l'année prochaine. Alors, le festival commence donc le 20 juillet avec d'abord une conférence que vous animez, Bernard.
Oui. Alors, c'est une conférence, c'est un bien grand mot. C'est une conférence lecture, c'est-à-dire que je choisis des livres et puis j'en lis certains extraits et je les illustre par des musiques en rapport avec ce que je suis en train de dire. Donc la conférence s'intitule « Les Ospedales de Venise » ou « La musique du XVIIIe siècle au plus haut niveau ». Et donc les Ospedales, ce sont des hospices. Mmh. Des hospices qui sont nés au Moyen-Âge, qui sont nés au XIIIe siècle pour certains, et qui ont été, donc à Venise, hein, je parle, mm-hmm. et qui ont été transformés, largement transformés au XVIe siècle, et surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, où ces hospices sont devenus des centres pour orphelins, et plutôt pour orphelines, puisque c'était uniquement féminin. Au contraire de Naples, où les hospices étaient réservés aux garçons. Voilà. Et ces hospices sont devenus de véritables conservatoires de musique, puisqu'on leur apprenait, on les éduquait bien sûr, mais pour certaines douées d'entre elles, on leur apprenait la musique à un très très haut niveau. Et il y avait 4 hospices donc à Venise, et dans chacun des hospices, on faisait venir les plus grands compositeurs de l'époque, dont un certain Galuppi, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui à l'époque était un grand compositeur d'opéra, qui est allé jusqu'à Londres, jusqu'à Vienne, enfin bon, qui a vraiment parcouru l'Europe entière. Mmh. Et puis un autre que vous connaissez évidemment parfaitement aussi, c'est Vivaldi, qui a enseigné pendant 35 ans le violon à l'hospice de la Pietà, qui est juste à côté de la place Saint-Marc à Venise, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, il y a d'autres compositeurs aussi, pour la plupart italiens, comme Jomelli, Tartini, Vivaldi, j'en ai parlé. Et il y a une exception dans tout ça, c'est Johann Adolf Hasse, qui n'est pas du tout italien, mais qui est un Allemand, comme son nom l'indique, et qui, lui, n'a pas été chef de, maître de chœur dans les hospices, mais il a été très très influent. C'est lui qui disait il faut plutôt choisir celui-là qu'un autre, etc. Et donc ces hospices sont devenus de véritables conservatoires avec un niveau absolument incroyable quoi, dans l'histoire de la musique. Et ils ont disparu évidemment en 1797 avec l'arrivée de Napoléon à Venise.
D'accord. Et donc, pour en savoir plus, rendez-vous mercredi 20 juillet à 21h, ce sera à Salle des Consuls à Montflanquin. Ouais. C'est où exactement?
Salle des Consuls est juste à côté de la place des Arcades à Montflanquin.
Très bien. Et c'est entrée libre?
C'est entrée libre, c'est gratuit.
Très bien. On continue ce festival avec un concert proposé par l'ensemble Lyra. L'ensemble Lyra, c'est des jeunes, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure.
Oui, c'est un ensemble de jeunes instrumentistes qui, pour la plupart, ont fait le conservatoire de Toulouse. Donc c'est un ensemble occitan, on va dire, enfin d'Occitanie, de la région Occitanie. Et le concert s'appelle, c'est un calembour un peu, il s'appelle Made in France. En fait, il s'agit d'une référence à un compositeur parfaitement inconnu de musique française, donc de un compositeur français qui s'appelle Madin. Madin. Bon, ce n'est pas le plus connu des compositeurs qui seront interprétés là, puisque les autres, ben, c'est ni plus ni moins Lully, Rameau, Corrette, Dumont. Donc, ils y interpréteront de la musique instrumentale, et aussi, il y a parmi eux, ou parmi elles, il y a une chanteuse qui s'appelle Amandine Bontemps, et qui est soprano, qui va donc chanter quelques airs de la même époque. Voilà.
Très bien. Et donc ça, ce sera le vendredi 22 juillet à 21h.
Musique française, donc, par excellence, avec Lully et Rameau.
Église de Mont-Sempron, Libos.
Mont-Sempron-Libos, oui. C'est la première fois que nous allons là et nous tenons à nous exporter un tout petit peu au-delà de nos frontières habituelles, puisque ce n'est pas tout à fait la même communauté de communes. Mmh. Hein, c'est la communauté de communes voisine, mais bon, le lieu est magique. Et c'est vraiment une très très belle église, quoi. C'est une très belle église romane, avec une acoustique un petit peu réverbérante, mais pour cet ensemble-là, je crois que ça va très très bien passer.
Très bien. Ensuite, on continue avec un autre concert le 25 juillet à 21h à l'église de Montbahut, dans les jardins d'Arcadie.
Alors donc, par un ensemble qui s'appelle le Triomphe de Neptune. C'est un ensemble, c'est un petit ensemble ici, donc il y a un orgue et deux solistes soprano. L'organiste s'appelle Pascal Lefrançois et les deux soprani s'appellent Sophie Landy et Sophie Paté, qui sont les deux solistes en résidence à Montflanquin, pour l'une d'ailleurs, Sophie Paté, depuis très longtemps. Ils nous interpréteront de la musique, alors là, il y aura de plusieurs pays, c'est de la musique de plusieurs pays. Ils feront un lien avec ce qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire on a interprété King Arthur de Purcell. Mm-hmm. Et donc, elles feront un lien avec ce programme-là. Il y aura aussi de la musique italienne avec Pasquini et Monteverdi. Monteverdi, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, donc qui est le grand compositeur qui a fait la plus grande révolution de l'histoire de la musique de tous les temps, je dirais presque. Hein. C'est vraiment c'est un énorme compositeur, quoi. Aussi du Handel. Alors Handel, j'ai écrit sur les programmes, c'est le plus italien des Anglais né en Allemagne. Parce qu'effectivement, c'est un Allemand, mais bon, qui a suivi les Hanovres en Angleterre, puisqu'il y avait une crise de succession en Angleterre à ce moment-là. Et donc c'est un Hanovre, qui est un George, je ne sais plus lequel, qui est arrivé donc en Angleterre et qui a pris la place du trône. Et Handel l'a suivi. Enfin, c'est plutôt le roi George qui a demandé à Handel de le suivre, mm-hmm, et qui a fait une carrière absolument époustouflante à Londres, bien sûr. Il était passé par l'Italie, c'est pour ça que je dis que c'est le plus italien des Anglais, parce que il est passé par Venise aussi, par Naples, enfin il a voyagé pendant 2-3 ans je crois en Italie, et il s'en est beaucoup inspiré dans sa musique, et d'ailleurs la moitié de ses opéras au moins sont en italien.
C'est super de vous avoir avec nous pour toutes ces petites anecdotes.
Oui,
qu'on n'aurait pas forcément quand on lit le programme, on n'a pas toutes ces informations.
Non, bien sûr, non, mais bon, on va faire un programme un petit peu plus détaillé par concert, si vous voulez, oui, qu'on distribuera au moment du concert.
Mm-hmm. Très bien. Donc là, on parlait donc du concert par l'ensemble Le Triomphe de Neptune, qui aura lieu le lundi 25 juillet à 21h à l'église de Montbahut.
Oui, l'église de Montbahut, qui est une petite église. Montbahut, c'est pas un village caractéristique. Mm-hmm. Et pourtant, il y a une petite église là qui vaut la peine du détour, parce qu'elle a une acoustique merveilleuse. Et vraiment, elle n'est pas très grande. Elle est à taille humaine. Et je vous conseille vraiment de venir écouter rien que pour l'acoustique. C'est vraiment très agréable.
Donc, vous avez sélectionné ces lieux en fonction de l'acoustique. Comment ça s'est fait ?
Non, pas que. Hein. C'est, mm-hmm. Bon, là, par exemple, à Montbahut, on est très bien reçu. Alors, ça compte aussi, hein, bien sûr. On est très bien reçu par la mairie de Montbahut. Et puis voilà, on a d'excellents rapports avec eux. Et puis, d'année en année, ben, on change. Hein. On va ailleurs aussi. Hein. Par exemple, bon, cette année, on va à Mont-Sempron. Donc, on essaye aussi d'autres lieux, hein, bien sûr.
Et donc le festival se clôturera par deux soirées concerts, et c'est un gros projet, on en a déjà parlé un petit peu tout au long de cette émission. On peut réexpliquer de quoi il s'agit, Bernard ?
Alors le titre du concert s'appelle « De Naples à Venise ». En fait, ce sont les deux grands centres musicaux en Italie de l'époque, avec des musiques sacrées de Francesco Durante et Baldassare Galuppi. Francesco Durante était napolitain, donc il a été le professeur de multiples compositeurs en Italie. Et Baldassare Galuppi, c'est le local de l'étape de Venise, puisqu'il est né sur une île au large de la place Saint-Marc, qui s'appelle l'île de Burano, qui est à côté de l'île de Murano. Si vous connaissez un petit peu Venise, c'est vraiment très agréable de se balader d'île en île, en bateau bien sûr, voilà, avec les vaporetto qu'on
oui.
appelle là-bas. Et donc ce Galuppi, on l'appelait le Buranello, il Buranello, parce qu'il était né à Burano. Voilà. Donc Baldassare Galuppi est un compositeur absolument prolixe, et qui a composé de multiples opéras, des musiques sacrées bien sûr, et puis des musiques adaptées au fameux ospedale dont je parlais en début d'émission, puisqu'il a été maître de chœur il a été maître de chœur de deux hospices différents pendant de nombreuses années, et donc il a composé pour des voix féminines, donc quelquefois à quatre voix féminines, ce qui est plutôt assez rare à l'époque, et puis aussi pour orchestre bien sûr, puisque les filles, elles étaient aussi d'excellentes instrumentistes. Mm-hmm. Elles apprenaient le violon, le basson, quelquefois des instruments qui souvent sont réservés aux garçons, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon, comme le basson ou des choses comme ça. Et donc l'autre compositeur, c'est Francesco Durante. Alors Francesco Durante a été le maître de beaucoup d'élèves, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, dont Jomelli, Piccini, Zacchini, Paisiello. Ce sont des noms qui peut-être ne vous disent rien, mais qui à l'époque étaient... enfin, je vous disais, hein, Venise, c'était vraiment un centre musical international, puisque tous ces compositeurs s'exportaient à Londres, à Vienne, ou à Prague aussi pour certains. Voilà, donc c'est un bon programme là, de musique bien italienne. On reconnaît la musique italienne à quelquefois... du pétillant,
oui.
Peut-être une certaine joie de vivre. Mm-hmm. Voilà, on reconnaît tout ça dans le style dans le style musical.
Et donc, je le rappelle, pour ces deux dernières soirées, il y aura le cœur du festival. Donc, personnes qui se sont inscrites au stage.
Voilà, c'est on appelle le cœur du festival. En fait, c'est le cœur des stagiaires, mmh. hein, qui viennent donc se mélanger avec l'orchestre baroque de Montauban, qu'on appelle les Passions, hein, qui normalement est dirigé par Jean-Marc Andrieux, et qui là sera dirigé par Jacques Charpentier, qui est un excellent chef de chœur et qui dirige notamment le chœur Arpège à Bordeaux et qui travaille sinon à Marmande. Donc c'est aussi un local de l'étape, si vous voulez, mais qui a un brillant avenir devant lui, je pense. Il est très jeune, hein, il a 35 ans par là, donc c'est quelqu'un de vraiment intéressant. Et donc il y aura les deux solistes en résidence dont j'ai parlé tout à l'heure, Sophie oui. Patet et Sophie Landy, et accompagnées de l'alto Claire Bournaise, dont c'est la première fois qu'on la rencontre, donc j'ai hâte de la connaître. Voilà.
Voilà pour ces deux soirées, donc c'est le 28 et le 29 juillet à 21h. Le 28 juillet, ce sera à l'église de Villeréal et le 29 juillet à l'église de Montflanquin. Donc là, il y a deux dates possibles, donc il n'y a pas de raison obligée.
oui, c'est ça. En plus, l'église de Villeréal, si vous voulez, maintenant, ça fait pas mal d'années qu'on y va et on a de bons rapports aussi là avec avec le public, il faut absolument y venir. Et puis, en plus, je pense faire une émission chez vos concurrents de Radio 4.
C'est pas nos concurrents, c'est nos cousins.
Voilà, c'est ça.
C'est une radio associative.
Voilà. Exactement, exactement.
Ils font partie des radios associées du Lot-et-Garonne.
Donc, et puis à l'église de Montflanquin, évidemment, puisque c'est c'est notre centre vital, oui. Montflanquin. Et à Montflanquin, si vous voulez, l'église est très agréable aussi au niveau acoustique pour des grands ensembles. Pour des petits ensembles, c'est un peu plus difficile, mais pour des grands ensembles comme celui-là, il y aura quand même 60 stagiaires qui seront, 60 choristes qui seront l'un à côté de l'autre, debout, enfin bon... Voilà. Je précise juste, c'est une petite précision, c'est que on respectera un certain nombre de gestes barrières, vu le contexte sanitaire actuel. Même si on n'en est pas vraiment obligé, on respectera un minimum de distance entre les choristes, etc. Voilà.
C'est important de le préciser, ça peut rassurer certaines personnes.
Oui, oui, absolument. Je crois que avec le retour d'un variant là actuellement, je pense qu'il faut pas hésiter à mettre le paquet sur sur ces choses-là.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les soirées baroques 2022?
Alors moi j'ai envie de rajouter qu'il faut y venir,
oui,
pour se rendre compte à la fois de la richesse du programme présenté et aussi de l'ambiance, parce qu'il y a vraiment une ambiance très particulière et qui fait revenir les gens, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Venez nous écouter.
En tout cas, moi, ça m'a donné envie de venir et d'aller en Italie aussi.
Oui, ça, c'est vrai. Oui, oui, c'est... L'Italie, c'est un réservoir infini de musique, d'abord d'excellente qualité, enfin de très grande qualité, et en même temps de diversité.
Merci beaucoup, Bernard.
Merci, Ophélie.
Merci d'être venu faire un tour dans la quotidienne. Donc, je rappelle que les soirées baroques, c'est du 20 au 29 juillet à Montflanquin, mais pas que, on l'a dit. On peut retrouver toute la programmation sur votre site internet www.soireesbaroques-montflanquin.fr et vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Merci beaucoup, Bernard.
Merci bien.
La quotidienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Passez une très belle journée à l'écoute du 93.6.
C'était La quotidienne sur Radio Bulle. Retrouvez le podcast de l'émission sur radiobulle.net. Radio Bulle, c'est votre radio de la jeunesse.